Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020 et c'est le journal radiophonique amplifié numéro 60. Aujourd'hui au programme, on va parler de l'actualité nationale, internationale, de prison, de LPPR, de mobilisation, mais aussi de coronavirus. C'est un programme tout aussi enthousiasmant que riche et passionnant. Et il y a toute l'équipe du JRA aujourd'hui pour vous, pour vous décrypter toute cette actualité qui est mixée, égalisée et bien sûr amplifiée. On commence tout de suite avec le national et notamment le rapport sur le mal-logement qui vient de sortir, Nicolas.
La Fondation Abbé Pierre publie un rapport sur le mal-logement entre 2004 et 2019. Les chiffres ont été plus que doublés et c'est environ 16 500 personnes qui ont été expulsées par la force en France en 2019. Ils ont rejoint d'autres dans la rue pour être au total 143 000 personnes sans logement en 2019. La formation pointe du doigt la montée des loyers, l'absence de logements sociaux et plus généralement les politiques néantes en ce qui concerne les politiques plus précisément du logement. Alors que des appartements s'effondrent d'insalubrité, que le plafonnement des loyers à échelle communale est combattu par le gouvernement et que l'on attend des constructions d'HLM par incitation et allègements fiscaux, c'est aujourd'hui plus de 4 millions de Français qui vivent dans des critères de mal-logement en France.
Merci Nicolas. Et on fait tout de suite le point sur la mobilisation contre la réforme des retraites.
Et le Conseil d'État a publié récemment un petit rapport, 1029 pages tout de même, qui évalue les conséquences du projet de réforme des retraites. Et ce rapport fait tout sauf dans la tendresse à l'égard du gouvernement, projections financières lacunaires, conformité aux droits insuffisantes et demande d'une meilleure évaluation des situations individuelles des assurés et des employés. L'exécutif qui s'attendait à plus de soutien de la part du Conseil d'État s'est notamment exprimé par l'intermédiaire d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui a déclaré « J'aurais préféré un autre avis du Conseil d'État ». En attendant, pour un projet dans les tuyaux du gouvernement depuis 18 mois, une telle accusation d'amateurisme a de quoi surprendre.
Et en parlant d'amateurisme, Rémi va nous parler de la LPPR.
Et oui, dans l'enseignement supérieur et la recherche, la protestation contre le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche s'intensifie. Depuis le mois de janvier, des dizaines de laboratoires du FR de Revue ont déclaré leur opposition à ce projet, dont les rapports préparatoires prévoient, entre autres, l'ouverture de postes précaires comme alternative au statut de maître de conf ou de chargé de recherche, l'application du CDI de projet dans la recherche, le retour de la modulation de service et la fin du volume statutaire de 192 heures d'enseignement des enseignants-chercheurs, qui pourront ainsi être majoritairement enseignants ou bien chercheurs, et puis l'amplification des logiques d'évaluation quantitative dans la recherche. La semaine dernière, plusieurs milliers de chercheurs ont ainsi collectivement candidaté à la présidence du HCRS, l'instance chargée de l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour manifester leur volonté d'une reprise en main de la recherche par ceux qui la font. Les annonces de la ministre Frédérique Vidal lors de ses vœux le 21 janvier, consistant entre autres à proposer de financer une revalorisation des salaires à l'embauche dans la recherche sur les économies prévues par la réforme des retraites, n'ont pas convaincu pour l'instant. Et plusieurs comités d'évaluation des laboratoires démissionnent actuellement. Des motions pleuvent toujours, y compris à l'ENS où plusieurs départements se mobilisent et où les délégués de formation ont pris une motion annonçant leurs inquiétudes cet après-midi même. Une coordination nationale, enfin, continuera d'organiser la lutte samedi et dimanche à Saint-Denis. Un dossier à suivre de près, donc, car sous cette réforme technique se cachent des évolutions profondes des métiers auxquels nombre d'entre nous se destinent.
Et il n'y a pas que dans l'enseignement supérieur que les professeurs sont mobilisés. Phileas, tu nous en parles un peu plus.
Alors oui, cette semaine se sont déroulées les premières épreuves du baccalauréat, de la nouvelle réforme. Ces dernières auraient été boycottées par de nombreux professeurs. Partout en France, des épreuves ont dû être reportées, des convocations officielles réimprimées, et ces épreuves sont donc décalées jusqu'à des dates pas encore fixées. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, regrette que des professeurs de Lyon aient jeté des manuels scolaires au rectorat de cette ville, ces derniers considérant que ces manuels étaient désormais périmés et non conformes aux nouveaux programmes. Par ailleurs, le hashtag « Je suis 0,1% » a été utilisé par nombre des professeurs pour exprimer leur désaccord vis-à-vis de cette réforme, car le ministre aurait déclaré que 99% des enseignants étaient d'accord avec la réforme du bac, alors qu'en réalité, il semble avoir dit que 99% des enseignants étaient d'accord avec un des propos qu'il avait exprimé vis-à-vis de ce qu'est l'éducation pour un professeur.
Et on parle aussi de pesticides dans les actualités nationales aujourd'hui, puisque le Monde a remis la question du lobbying intense des entreprises de production de pesticides sur la table. Le Quotidien a en effet divulgué des échanges entre le chef du cabinet du président de la République et du directeur du site de Montreuil-Bellay de la cité Fit Europe, ainsi qu'entre Bruno Le Maire et le patron de Syngenta-France. Ces échanges montrent d'intenses pratiques de lobbying, notamment contre la loi sur l'alimentation, dite loi Egalim de 2018, dont l'article 83 prévoit l'interdiction à partir de 2022 de la production, du stockage et de la circulation de produits phytopharmaceutiques qui sont interdits en Europe car ils sont des perturbateurs endocriniens et cancérogènes, mais ils sont vendus à l'étranger et notamment en Afrique et en Amérique latine. L'UIPP, l'Union de l'industrie de la protection des plantes, a alors déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre cet article. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision demain pour savoir s'il s'agit d'une atteinte à la liberté d'entreprendre qui est protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et on passe à l'international maintenant, avec des nouvelles des procédures judiciaires engagées contre des journalistes du site Disclose de Radio France et du Quotidien sur TMC. Ces derniers avaient été convoqués par la DGSI après avoir révélé le rôle des armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans le conflit qui se déroule au Yémen depuis 2015. Ce conflit a fait déjà des dizaines de milliers de morts. Le ministre des Armées avait porté plainte contre les médias car une note classée confidentielle, défense, leur avait été transmise en décembre 2018. Le parquet de Paris avait alors ouvert une enquête pour compromission du secret de la défense nationale. Hier, il a fait savoir sa décision de ne pas poursuivre pénalement les journalistes, mais le procureur de la République a toutefois souligné que cette procédure constituerait un antécédent judiciaire et leur a notifié un rappel à la loi. Un geste ambigu, donc, entre classement de l'affaire et intimidation de journalistes. Et tout de suite, on fait le point sur le conflit israélo-palestinien avec toi, Nathan.
Alors oui, puisqu'il y a des nouveautés, Donald Trump a présenté mardi 28 janvier sa vision d'une paix israélo-palestinienne aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors, la vision, ou plutôt le plan du chef de la Maison-Blanche s'aligne en tout point sur les exigences israéliennes, et valide l'annexion des territoires palestiniens en dépit des résolutions de l'ONU. En bref, la vallée du Jourdain est reconnue comme une frontière orientale essentielle à la sécurité d'Israël, la capacité de l'armée à se déployer rapidement dans tous les territoires palestiniens est assurée, les conquêtes de la guerre de 1967 avec ses voisins arabes sont largement maintenues, et l'autorité palestinienne se voit rappeler que le temps joue dramatiquement contre elle. Jérusalem deviendrait donc la capitale invisible et libérée d'Israël, et les Palestiniens devraient se contenter à l'est des faubourgs hors de la ville. Un État palestinien serait donc créé, amputé de 30% de son territoire de 1967, et au prix de très importantes concessions. Pour le Figaro, cela consiste à en faire voler en éclats les paramètres du conflit israélo-palestinien. Et ceci bien que mercredi soir, les sondages en Israël n'indiquaient aucune poussée de la coalition de droite israélienne, et l'annexion ne demeurait soutenue que par une minorité. Une solution donc qui ne fait pas l'unanimité, puisque pour l'Orient le jour, l'administration américaine ne vise pas la paix, mais va enterrer l'idée d'une solution à deux États et faire passer les Palestiniens pour